France Culture. Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture qui marie saveurs et savoirs, qui active papilles et méninges autour d'un fait culturel majeur, l'alimentation. Portrait ce midi d'un jeune agriculteur qui est à la fois cultivateur de blé, meunier et boulanger. Les champs sont derrière la ferme, les moulins derrière une porte de la grange aménagée, le four à pain de l'autre côté, c'est pratique et ça sent bon le pain dès qu'on franchit la porte du bureau. Voilà 10 ans que Maxime Suiffet a repris la ferme familiale au Vignaud, à Pauillac, dans le Gers, où il produit des blés paysans issus de variétés anciennes, dont il fait un pain délicieux qu'il vend sur la ferme et dans ses alentours, notamment au marché de Lectour ou dans les boulangeries comme les Petits Pains de Jo à Pompertuza. Avec lui, c'est toute la chaîne de la fabrication du pain qu'on a révisée, sans négliger les problématiques économiques et politiques qui se posent à lui aujourd'hui. Mais pour commencer, je lui ai demandé de nous raconter l'histoire de ce lieu et son rapport à la ferme.
Ma famille traîne sur cette ferme-là, sur Vignaud, depuis au moins 4 générations. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, dans les années 90, ça faisait... Je ne sais pas trop aujourd'hui, finalement, mais dans les années 90, ça ne faisait pas trop rêver, à 14 ans, de devenir agriculteur et de voir pas grand monde et de faire des allers-retours en tracteur dans un champ. Enfin, je le voyais comme ça et ça n'avait pas beaucoup de sens pour moi à l'époque. Mais voilà, ça ne me faisait pas vraiment rêver, donc j'ai fait autre chose qui m'a fait me rendre compte que finalement, c'était plutôt bien que passer 8 heures dans un bureau, c'était pas vraiment fait pour moi. Et bien qu'il faut faire un peu de bureau pour être agriculteur, mais c'est quand même pas la majorité du temps. Mais c'est complexe. Moi, je vois des grosses fermes autour de ma petite ferme qui m'entoure, où les gens disent c'est devenu gros, donc maintenant il faut le métier d'agriculteur consiste à gérer des gens et gérer des choses et finalement plus trop aller dans les champs quoi. Et pour moi, il est important de trouver un équilibre et d'être toujours dans le réel, qui pour moi est la terre et la nature dont on fait partie. Voilà.
Alors parlez-moi de cette terre et de cette nature environnante, puisque on est au Vignaud. Au Vignaud, c'est sur la route de Pauillac. À quoi elle ressemble la terre et la nature autour de vous?
Donc on est dans le nord du Gers, autour de Lectour, un territoire que j'aime beaucoup, qui est vallonné, qui a une terre argilo-calcaire, plutôt ocre foncé. Des très belles lumières, un paysage qui est vraiment apprécié et qui est courtisé, ce qui est validé par le prix des maisons qui nous entourent. Voilà, et qui aussi rend compliqué l'accès des maisons aux agriculteurs. Une région qui a été aussi vachement dévastée par le remembrement et qui manque, à mon goût, cruellement d'arbres. Voilà, il y a beaucoup d'arbres qui ont été coupés. Pour certains, ça fait du charme de voir ces étendues vallonnées. Et pour d'autres comme moi, c'est pas évident parce que j'aime beaucoup les arbres et je pense que c'est de bons compagnons de l'humanité. Voilà.
Traditionnellement, c'est une terre de quoi ici ?
Traditionnellement, c'est une terre de polyculture élevage, d'où les grandes fermes qu'on a ici qui étaient faites pour mettre des vaches allaitantes, donc faire de la viande. Et elles ont été remembrées et industrialisées grâce à la pétrochimie et aux engrais modernes. Sinon, sans pétrochimie, il y a beaucoup de terres qui redeviendraient de la prairie ou de la vigne. Ça s'appelle vigno, il y avait de la vigne ici, quoi, entre autres.
Et depuis quand on fait du pain chez les vignos?
Bon, je pense depuis toujours, parce qu'il y avait des fours à pain dans toutes ces fermes. Tous ces gens étaient autonomes, mais c'était une production vivrière. On va dire pour chaque ferme qui était une petite communauté. Mais là, c'est depuis 10 ans que ce projet est arrivé de mettre un four, de faire un fournil, et surtout de faire pousser ces blés qui sont assez fantastiques, qui sont très beaux, que j'aime beaucoup ressemer tous les ans, voir grandir, accueillir de nouvelles semences, les expérimenter, les goûter. Voilà.
L'appellation de paysan boulanger, ça vous parle ?
La notion de boulanger est complexe parce que je crois qu'apparemment, on est en France, donc pour faire quelque chose, il faut avoir un diplôme. Donc pour avoir le droit d'être boulanger, il faut avoir un diplôme de boulanger. Moi, je n'ai pas de diplôme de boulanger, j'ai qu'un diplôme d'agriculteur. agriculteur qui me donne le droit, dans une certaine limite, de transformer ma production. Voilà, c'est un droit qu'il n'y a pas dans tous les pays de l'Europe. Mais en tout cas, nous, on l'a et c'est une grande chance. Et donc, elle est, voilà, la plupart du temps, on raccourcit en se nommant paysan boulanger, mais il faudrait inventer un nouveau mot qui va à tout le monde. Mais moi, ça me suffit qu'on englobe ce que je fais dans l'agriculture. Pour moi, il y a la culture dans l'agriculture, et donc c'est plus vaste que juste produire quelque chose. Voilà.
Alors, parlez-nous de cette agriculture, et en particulier les blés, parce que dès que vous parlez des blés, vous avez des petites pépites dans les yeux. Vous avez l'air de les aimer, vos blés. Ça veut dire quoi, blé ancien, blé paysan, justement?
Oh là là, vous me lancez sur un sujet qui... Je crois que même le réseau Semences Paysannes n'a pas réussi, avec la grande distribution, à trouver un accord et ils ont baissé les bras. Ça veut rien dire, voilà. Ça veut tout et rien dire. Parce que pour des gens, un blé ancien, c'est un blé qui a 20 ans. Voilà. Mais pour d'autres, vraiment pas. En fait, j'ai pas que des blés anciens. J'ai aussi des blés paysans qui sont des croisements faits par des paysans à partir de blés anciens. En fait, l'idée est de se rapprocher d'un mode d'expression génétique de ce qu'était le blé ancien, c'est-à-dire des blés hauts, avec des pailles très hautes, hein, des épis lâches, très colorés en général, qui ont une grande brillance dans les champs. Au moment des moissons, on voit tous ces champs mats, et bien les champs de blé ancien en général, ils gardent ce brillant, les fameux blés d'or des livres d'autrefois. En fait, c'est juste, le blé, il est comme ça normalement, ça a disparu ça. Et en fait, ça a disparu par la révolution industrielle, par les sélections du début du siècle qui étaient encore soft, qui étaient... Ils utilisent des mots qui sont pas très glorieux, mais l'étranglement génétique, c'est-à-dire sur-sélectionner une plante et éradiquer tous les individus qui ne correspondent pas à la norme. Bon voilà, ça fait aussi écho à nos sociétés aujourd'hui. Et ensuite, il y a eu toute la génétique jusqu'aux OGM qui est de venir trafiquer, faire des croisements. Et ça, le blé, notre blé, il n'y a pas échappé. Mais bon, en même temps, je jette pas la pierre. On a le projet de société qu'on veut et on a ce qu'on achète et on nourrit ce qu'on fait au quotidien. Donc, on est juste à l'aboutissement de ce que les gens subventionnent tous les jours. Voilà.
Alors, comment, Maxime Suiffet, on cultive des blés anciens sur une terre qui n'en fait plus et dans une parcelle qui est manifestement un peu exceptionnelle par rapport à ce qui vous entoure?
Ben, en fait, on fait ça pas tout seul, on fait rien tout seul. Il y a plusieurs réseaux en France, il y a plein de gens qui se bougent. Et surtout des gens qui se sont bougés à l'époque où c'était pas facile, où manger bio c'était dans les médias et dans la bouche de presque tout le monde et tous les agriculteurs dangereux pour la santé parce que il y avait pas les produits phytosanitaires qui viennent assainir tout ça. Donc il y a un réseau, il y a des gens qui ont fait et l'INRA aussi, qui ont fait un grand travail de conservation, de prélèvement dans les campagnes, pour sauver ce qu'il y avait à sauver, parce que beaucoup de choses ont disparu, hélas, avec le modernisme. Et il y a des conservatoires, il y a des gens passionnés qui ont préservé cette biodiversité, qui peut pas se ranger dans un frigo, voilà, qui est obligé d'être cultivé tous les ans. Donc en fait, l'idée de blé ancien n'existe pas. C'est des blés qui ont jamais cessé d'être semés tous les ans et de continuer à s'adapter à un terroir, aux pratiques de l'humain. Voilà.
Ici, dans le Gers, dans la terre gersoise, ces blés poussent bien. C'est une bonne terre pour eux. C'est une terre fertile pour ces blés.
Ces blés ont une grande capacité d'adaptation et il reste des variétés encore territoriales. Bon, ici, on parle beaucoup du rouge de Bordeaux, qui était un blé qui était un peu semé sur tout le long de la Garonne. Bon, c'est un blé qui pousse très bien ici, mais bon, nous, on a quand même un territoire assez simple et propice à la culture du blé, comparé à des territoires très humides ou des sols très sableux, voilà, par exemple, où... Je pense que mes variétés mettraient quelque temps à s'adapter et il faudrait mieux aller chercher des variétés que nos ancêtres ont sélectionnées par sélection massale pendant des siècles et des siècles. Quoi.
Donc vous avez une trentaine de variétés de blé aujourd'hui, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, c'est plus complexe parce que c'est un mélange. Donc le mélange, il est vivant, il évolue. Donc Il y en a certainement qui ont disparu, Jean Romais, mais voilà, on peut donner cette moyenne de diversité, d'une trentaine de variétés. Oui.
Et une fois que vous avez moissonné vos blés, qu'est-ce qui se passe ?
Tous les 9 mois dans l'année, il y a un événement très important, c'est le premier mois, les semis, là, ce qu'on vient de faire il y a quelques semaines, et dans 9 mois, on récoltera le blé. 10-15 novembre, en général, ici, on sème les blés, en fonction de la météo, et voilà. Et vers le 15 juillet, on moissonne les blés. Là, c'est un ami agriculteur, un voisin qui fait la moisson, parce que moi, je n'ai pas de moissonneuse, donc voilà, il y a un système d'entraide agricole. Tous ces blés, il faut les nettoyer le plus vite possible, parce qu'on a ces grains qui sont à 35 degrés, qui sont avec le soleil de juillet. Donc la conservation du blé, c'est le froid. Donc d'abord, il faut sortir la poussière, le nettoyer et le mettre dans des silos et le refroidir avec des souffleries pour qu'il passe l'année.
Et après, vous en faites de la farine ?
Et après, j'en fais de la farine, voilà. Après, je le renettoie, il y a beaucoup de travail pour qu'il soit parfait. Et après, voilà, je l'amène à mon moulin quand j'en ai besoin. Et je fais de la farine assez fraîche, on va dire, parce qu'il n'y a jamais de blé. On n'utilise jamais de farine qui ont plus d'une semaine. Même en général, la farine, elle a 3 jours maximum, voilà, avant de l'utiliser. Ce qui donne, voilà, je pense... une plus grande fraîcheur, il y a des acides gras dans la farine et il pourrait avoir tendance à rancir. Et donc voilà, on a ce grand luxe que beaucoup de boulangers rêveraient d'avoir la farine aux portes du fournil.
J'ai l'impression qu'il est là, il est derrière le moulin. On va voir le moulin quand même. C'était derrière la porte. Je ne m'attendais pas à un moulin comme ça. Alors,
il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de grandes ailes. Ah, c'est très simple, ouais. Alors, bah on est sur quasiment la même chose que ce qu'il y avait dans un moulin à eau ou dans un moulin à vent. Une meule, enfin deux meules, une meule dormante et une meule tournante, dans laquelle passe le grain. C'est une meule en granit. Cette meule déroule le grain. Le grain passe directement dans un blutoir qui est un tamis et quasiment, même pas une minute après, elle se retrouve dans un sac parce qu'il y a une petite ligne d'ensachage de 8 sacs et voilà, et là la farine est prête à être consommée.
Et là, juste à côté de nous, se trouvent deux bacs, comme si c'était les résidus, ça c'est ce qu'on ne garde pas ?
Ça c'est ce qu'on ne garde pas, c'est le son. On le garde en une certaine proportion, ce qui donne le thé. Là, par exemple, je fais la farine T80, donc c'est la farine à peu près semi-complète. Voilà. Donc, en fonction de mon tamis, que vous en avez un autre là, je fais différents types de farine.
De la plus blanche à la complète.
Plus complète. Je fais jamais de la blanche, on fait de la semi-complète ou de la très complète, par exemple, pour des seigles ou pour de l'époque. Là, on va aller côté fournil, on va aller voir Clémentine qui utilise le fournil le jeudi. Ben là, nous trouvons dans le fournil un petit fournil paysan d'une très grande simplicité. Il y a, on va dire, un four à bois moderne qui n'est pas un dôme de briques comme autrefois, mais qui est un assemblage de métal et de briques réfractaires. Voilà. Dans lequel on fait cuire le pain 3 fois par semaine. Et voilà, quelques plans de travail. Un vieux pétrin qui doit avoir une centaine d'années, qui vient de Lectour et qui a déjà dû faire manger les Lectourois pendant une bonne centaine d'années. Et voilà, qui continue sa vie ici. Voilà.
Racontez-moi le trajet de la farine au pain que je vois là cuit.
Alors,
bonjour Clémentine.
On prend la farine la plus fraîche possible. Le premier travail est le levain, c'est-à-dire à nourrir notre cheptel de levure à sauvage et de bactéries lactiques, qui font le côté unique de notre fournil. Chaque fournil a son levain qui est lié au mur, au champ, à la peau du ou des boulangers et boulangères. Donc voilà. Et donc le premier travail est la culture du levain, qu'on fait la veille, et qui nous amène à avoir un levain de tout point le matin, qui nous permet de faire un assemblage dans le pétrin d'eau, de farine, de sel, de noirmoutier et de levain. Après pétrissage, après des temps de pause, vient le façonnage qui amène le pain à passer dans des petites corbeilles ou dans des moules métalliques. Voilà, pour la deuxième partie qui est la levée. Mince, Clémentine, j'utilise plus ces termes. Comment après le façonnage, c'est quoi le terme? C'est l'après, jusqu'à l'enfournement, où le pain va rester 45 minutes dans le four. Et
tous les pains?
Il reste entre une demi-heure et 45 minutes, ça dépend. Voire un petit peu plus, selon nos folies. L'été, où là, Clémentine a fait des expérimentations. Le seigle, c'est vrai qu'on chérit particulièrement en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. Mais parce qu'il est sûrement parce que c'est très bon. C'est des cuissons, c'est des grosses pièces, c'est des cuissons très longues. Moins chaud que le pain. Enfin voilà, Clémentine est passionnée par ça.
Clémentine, racontez-moi les expérimentations que vous faites et quel pain vous avez à cœur en ce moment.
Alors moi, en ce moment, je voudrais essayer de développer une gamme autour du seigle. Donc je bataille depuis des mois pour mettre au point ma tourte pure seigle. Et là, je voudrais travailler sur tout ce qui est pain nordique. Pain avec un gruau de graines qui a cuit, qui a été toasté et qui a cuit la veille dans de l'eau et qu'on va ensuite ajouter au levain et à la farine de seigle. Donc ça fait des pains qui sont très compacts, très humides, qui se gardent longtemps et voilà, qui ont des saveurs assez complexes, assez miellées en fait. Donc ça, ces pains-là, c'est des pains qui cuisent 1h15 à 200 degrés et après un quart d'heure à 230 degrés. Donc tout l'inverse de ce qu'on fait par exemple avec un pain de blé qu'on va enfourner à peu près 250 degrés et on va utiliser la chaleur tombante du four pour le faire cuire. Du coup, quand on va le sortir du four, le four sera presque à 200 degrés. Donc là, j'essaye d'utiliser le four à bois à l'envers de ce qu'on fait d'habitude. Donc j'ai ces deux pains que vous voyez là, c'est le premier test aujourd'hui. Donc ce matin, je les ai fait cuire avant que mon four soit pleinement chaud. J'ai réussi à bloquer mon four à 200 degrés au bois. Je les ai fait cuire. Pendant ce temps-là, je façonnais tout le reste, je courais un peu partout. Et j'ai relancé la chauffe pour essayer de refaire monter le four pour terminer cette cuisson. Ce serait plus simple avec un four électrique. Mais
Ah, ça c'est pour Maxime, il faut qu'il investisse dans
Non, mais le challenge, c'est quand même le four à bois.
Ah oui, c'est innégociable, c'est magique de côtoyer cet élément, le feu, tous les jours. Et,
il a moins de régularité qu'un four électrique, le four à bois.
Il nous fait nous énerver des fois, mais c'est nous le seul responsable, c'est pas lui. Et on arrive à faire des belles choses, mais c'est pas le chemin de la facilité, mais c'est bien plus magique.
Clémentine, vous disiez que vous bataillez depuis quelques mois pour essayer de faire votre tourte de meule de seigle. Qu'est-ce qu'un pain réussi? Qu'est-ce qu'un bon pain?
Alors, un pain réussi, ça va être un pain qui va avoir une pâte plutôt douce, plutôt hydratée, qu'on va réussir à façonner dans le bon temps de fermentation, donc qu'il n'y ait pas trop de pointage en bac au moment où on va façonner, parce que sinon, il y a trop de gaz. Quand on façonne, on dégaze trop, et ça peut nuire à l'alvéolage de la cuisson. Moi, j'aime bien les pains qui gardent de l'humidité dedans, qui vont développer un alvéolage, ce qu'on appelle natif. Donc, voilà, quand il a fermenté, il y a des gaz qui sont formés et on a tout fait pour essayer de garder ces gaz-là. Donc, on a été délicat dans le travail du façonnage derrière pour pas perdre ces gaz-là. Et après, moi, c'est un pain qui a de la croûte. Moi, je cuis plus longtemps que Maxime. On n'est pas d'accord là-dessus. Et voilà, moi j'aime bien avoir un pain un peu plus croûté, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment bien des croûtes plus fines.
Donc il y a les pains de Clémentine et les pains de Maxime, comme ça tout le monde est content.
Oui, mais il y a même les pains de Vincent, on est trois différents. La farine c'est la même, le levain c'est le même, et pas tout à fait pour Clem maintenant, mais les pains sont tellement différents, c'est incroyable, voilà. Là c'est magique, là c'est vraiment un moment. On a droit à ça toutes les semaines, d'ouvrir là après.
Là on regrette de ne pas avoir l'image. Hein. Ah, oui. Donc je vais essayer de le décrire. On est dans l'intérieur du four. Clémentine tourne une manivelle, éclaire avec une petite lampe ce qu'on peut voir, et on voit tourner sur deux étages des pains tous plus extraordinaires les uns que les autres. Qu'est-ce qu'on a comme type de pain là ? Pouvez-vous me le dire quand même ?
Alors là, on a des moulés aux graines, ici, juste devant. En haut, ça va être des campagnes sur sol. Là, vous avez le campagne moulé, avec son copain sur sol à côté. Au fond, dans les moules, là, ceux qui n'ont pas de farine et qui sont un peu plats, c'est des petites épeautres. Voilà. Là, il y a les grosses tourtes que je vois.
Très grosses tourtes.
Ah ouais, c'est des pièces de 4 kilos. Ça va être assez gros, oui. Et je cherche les corazons. Ah voilà, les corazons sont là, entre les deux pains aux graines.
C'est quoi, les corazons ?
C'est un blé dur. C'est un blé dur, donc du coup, à la base, avec les blés durs, on fait plutôt des pâtes ou des semoules. À panifier, c'est un peu plus délicat, c'est assez fragile, mais c'est un arôme très sucré et presque anisé naturellement.
C'est intéressant.
C'est moelleux. C'est une jolie couleur. Et là, on va écouter si le pain est cuit. Ça va.
Vous tapez sur le dessous du pain.
Je tape sous le dessous du pain pour le sonner, et on cherche un son plutôt mat. Comment dire, ça identifie le côté peut-être. Ça, c'est vraiment très subtil parce que ça, c'est un savoir qui est plutôt comme ça, qui se transmet avec l'expérience en fait. Du coup, on cherche le bruit un peu creux du pain qui sonne parce que il y a assez d'eau qui est partie en fait. Là, pour moi, il n'est pas tout à fait parfait, mais je sais qu'il y a des gens qui vont l'aimer comme ça, et que le temps que je sorte les autres, et bah, y en aura des un peu plus cuits.
Et alors Maxime, dites-moi, où peut-on trouver les pains de Maxime Chiffet, Clémentine, Vincent ?
On peut trouver les pains à 30 km à la ronde. Moi, je crois que c'est moi qui m'exporte le plus loin. Il y a la Biocoop d'Auch qui me vend un tout petit peu de pain. Mais sinon, 90% du pain du fournil est vendu à 10 km autour du fournil. Voilà. Après, c'est vrai, non, je mens parce que j'ai des gens qui viennent de très loin me chercher du pain, comme Franck qui vient des Landes, qui me prend du pain pour un mois et il congèle son pain et voilà, et il est peinard.
Vous n'avez pas de boutique ? Vous n'allez pas sur les marchés ?
Si, on va sur le marché, oui. Vincent, là, il est au marché de Saint-Clair. Clémentine, elle va à Lectoure demain matin. Moi, je fais le marché du lundi de Lectoure, mais qui s'arrête pendant l'hiver. Donc là, je ne fais plus de marché. Là, mon activité, elle a énormément réduite et je vends sur commande au fournil.
Avec des restaurateurs ?
Le restaurant Racine à Lectoure m'a pris du pain pendant très longtemps et jusqu'à avoir l'envie de eux-mêmes le faire parce que c'est passionnant de faire son pain. Et là, ils font du très bon pain qui est aussi totalement différent de ce qu'on fait ici. C'est incroyable.
Clémentine, c'est quoi la prochaine étape là ?
Là, le pain est en train de sécher. Donc c'est là où la croûte va s'épaissir et ensuite on va le défourner. Et on va le laisser ressuyer 2 heures sur grille. Voilà, c'est un moment où en fait le pain, il va vachement évoluer. Il va sortir, il va être très croustillant. Il va devenir ensuite mou. Et ensuite, il va se redurcir. Et en fait, ça, c'est le travail de l'amidon à l'intérieur du pain qui va évoluer et tout va se réorganiser en fait. Du coup, quand on sort du four et qu'il est chaud, si on le coupe, il est très collant à l'intérieur. Et il est même pas bon à consommer en fait. L'amidon n'est pas réorganisé. Et en refroidissant, tout va se restructurer et on va avoir un pain qui va avoir une tenue.
Et après, il n'y a plus qu'à déguster. Donc, ça, c'est quoi ça ?
C'est un campagne. Ouais, c'est un pain de campagne. Vous voyez, ils ont pas eu...
C'est lui qui travaille tout seul parce que ces deux-là ne se ressemblent pas. Alors, il y en a qui ont plus ou moins de farine dessus.
Non, c'est qu'ils n'ont pas eu le même banneton, je pense.
C'est quoi le banneton ?
Le banneton, c'est la panière qui accueille le pain pour lever. Voilà.
Et après, les coupes, les...
Tu grignes, toi, ou pas ?
Ça, c'est pas grigné.
Voilà. Qu'est-ce que vous appelez grigner, en fait ?
Grigner, c'est mettre un coup de lame pour forcer le pain à s'ouvrir d'une certaine manière. Donc,
mais,
les baguettes.
Mais c'est pour faire joli ou que
c'est pour faire joli et c'est nécessaire aussi pour que le. Normalement, le pain le fait tout seul, mais avec certains types de cuisson, des fois le pain se cloque et s'ouvre pas. Donc c'est quand même un peu forcer les choses. Et enfin, je sais, pour moi et quasiment tous les pains de Clémentine, moi je laisse faire. Il faut décider ça en amont, mais avec le type de façonnage qu'on applique, le pain finalement, là où il y a la clé, s'ouvrira tout seul et fait des dessins totalement. Totalement naturel et que moi je trouve finalement beaucoup plus beau que je laisse le pain faire. Plus le temps passe et plus je deviens. Le mot n'est pas feignant, mais j'ai pas d'autres mots. Plus je simplifie, je laisse faire, je laisse les choses se faire. Il faut que faut pas que les procédés soient trop complexes, quoi. Voilà. Donc voilà, au niveau des gestes, j'essaye de faire le moins de gestes possible, avoir des gestes harmonieux, des gestes assez efficaces. Et,
le pain vous le rend bien ? C'est-à-dire que vous sentez la différence ? Bien,
parce qu'en fait, je pense qu'il y a une histoire d'énergie derrière tout ça. Et en fait, moi, plus je suis cool et détendu dans ce que je fais, plus ça va se retrouver dans le pain, qui est un peu le prolongement de mon énergie et de ma volonté. Voilà. Voilà, voilà. Mais c'est pas évident hein, de lâcher et de pas être dans le contrôle. Et ça, on peut se permettre de faire ça parce qu'on a une toute petite production.
Combien de pain vous faites par semaine ?
Je fais 100 kilos par semaine, condensé sur un jour, parce que mon jour de production, c'est le lundi. Clémentine fait à peu près 70 kilos pour l'instant. Et Vincent, pareil, il est dans ces eaux-là, voire un petit peu plus. Donc voilà, donc il y a trois fois ça qui sortent du fournil par semaine.
Et qui sont vendus ?
Et qui sont vendus, ouais. Et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. On a un seuil de production désirable et on n'ira pas au-delà parce que ça nous est déjà arrivé de trop en faire et il faut que ça reste agréable. C'est une passion et au bout d'un certain moment, ça devient l'enfer. Et c'est, voilà.
Vous en mangez combien par jour des pains, vous ?
Des pains, fou.
Des tailles de 4 kilos, là.
Ça dépend des saisons. Mais je mange beaucoup de pain, oui.
Du vôtre ou d'autres ?
Ça, c'est difficile. Je n'ai pas trop l'opportunité de manger d'autres pains. Mais je suis toujours très curieux quand je pars en vacances et tout ça. Je suis souvent très déçu. Mais il y a quand même des petites pépites par-ci, par-là. Mais j'avoue, là, j'ai pris quand même l'habitude d'amener mon pain quand je pars en vacances.
Combien de temps il se garde votre pain sans le congeler hein.
Ça dépend de notre exigence, mais moi, mon pain, je peux le manger 15 jours. Si je suis pas dans une région humide, s'il moisit pas, s'il avait des bonnes conditions, il se garde 15 jours. Bon, il faut en avoir. Enfin, la plupart du temps, on le conserve 5-7 jours. Voilà.
Ouais. Merci, Maxime Suiffé.
Eh bien, avec plaisir.
Merci, Clémentine. Toutes les informations, les adresses, les références sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Pour télécharger cette émission et toutes les autres bonnes choses de la chaîne, rendez-vous sur l'application de Radio France avec la petite équipe des bonnes choses, Seam Boutata, Taïsia Froidure à la réalisation et aujourd'hui Anthony Thomasson à la console technique. Nous vous souhaitons un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.